Après cela, Jésus vint avec ses disciples en Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même témoin que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. » Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie, qui est la mienne, est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce qu'il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Tous ceux qui suivaient les informations en France en 2009 se souviendront sans doute de cette citation choc du publicitaire Jacques Séguéla. Alors, il y avait une controverse sur le goût du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, pour les objets de luxe. Il disait qu'il aimait bien les choses bling-bling, comme on disait. Et on interrogeait Jacques Séguéla à ce sujet et on lui parlait de la montre Rolex de Sarkozy. Il a dit, mais enfin, une Rolex, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Ça a quand même fait un peu le buzz. Alors Séguéla, pour être juste envers lui, s'est ensuite excusé. Il a même vendu sa Rolex au profit d'une association caritative, 8000 euros. Donc ne l'accablons pas trop. Surtout que dans un sens, il a dit tout haut et de façon assez grossière ce que pas mal de gens pensent tout bas et peut-être de façon un peu plus subtile. C'est-à-dire que pour réussir sa vie, il faut avoir des signes visibles de réussite. Alors pour certains, ça sera les richesses, pour pas mal de gens. Pour d'autres, peut-être pas tellement les richesses, mais les expériences, les relations, la reconnaissance qu'on peut obtenir des autres, etc., etc. Et sans doute que tous ici, nous avons au moins tendance à nous retrouver parfois dans l'une ou l'autre catégorie. Et dans le texte que nous allons voir ce soir, Jean, l'auteur du quatrième évangile, met le projecteur sur deux personnes, Jean-Baptiste, prophète juif contemporain de Jésus, et Jésus-Christ lui-même. Et je vous propose de nous intéresser à la manière dont Jean-Baptiste, dans ce texte, se positionne par rapport à Jésus. Et je voudrais qu'on se pose la question suivante, pourquoi Jean-Baptiste a-t-il réussi sa vie? Donc je vous soumets le fait qu'il a réussi sa vie. Jésus le dit dans d'autres termes par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a réussi sa vie? Et je vous soumets deux raisons que nous allons examiner tour à tour. Tout d'abord, Jean-Baptiste a compris qui est Jésus et il a cru en lui. Et ensuite, Jean-Baptiste a trouvé sa raison d'être dans l'exaltation de Jésus. On passera un petit peu plus de temps sur le premier point. Tout d'abord donc, Jean-Baptiste a compris qui est Jésus et cru en lui. Lors du précédent épisode, pour ceux qui suivent la série, enfin ça fait que depuis la semaine dernière qu'on l'a reprise, on a assisté à l'entretien entre Jésus et le dignitaire religieux Nicodème. Alors ça s'est passé à Jérusalem, capitale de la Judée, et ici, semble-t-il, Jésus va passer du temps avec ses disciples dans les campagnes avoisinantes, dans un territoire plus rural en Judée. Dans la traduction qu'on a lue, ça dit simplement en Judée, mais texte original dit dans le pays de Judée, sans doute une façon de dire dans la campagne de Judée. Et là, Jésus va passer du temps avec ses disciples et il va baptiser des hommes et des femmes qui viennent vers lui. Un peu plus loin dans son évangile, Jean va préciser qu'en fait, ce sont les disciples de Jésus qui baptisaient en présence de Jésus et sous son autorité. Quelques années plus tard, le baptême va prendre un sens nouveau, plus riche, plus profond, en signe de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est le sens du baptême aujourd'hui. Mais le baptême dont il est question ici était vraisemblablement semblable à celui que pratiquait déjà Jean-Baptiste. Vous vous souviendrez peut-être que Jean-Baptiste, au cœur de son ministère de prophète, il y avait cet acte du baptême. C'était un baptême qui exprimait le désir de faire demi-tour et de revenir à une vie fidèle à Dieu. Toujours est-il donc que nous nous trouvons tout au début du ministère de Jésus, à un moment où Jean-Baptiste est encore actif, avant d'être jeté en prison quelques mois plus tard, et c'est pour ça que Jean, le narrateur, précise qu'il n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'agit donc d'une brève période où Jean-Baptiste et Jésus ont exercé leur ministère en parallèle. Ça n'a pas duré très longtemps, sans doute quelques mois sans doute. Or, Jean-Baptiste avait déjà déclaré que Jésus était d'une importance infiniment supérieure à lui. À propos de Jésus, il avait dit, chapitre 1, verset 27, « Je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Une expression un peu de l'époque, mais on la comprend bien. « Je ne suis même pas digne de lui enlever sa chaussure, en quelque sorte, je ne lui arrive pas à la cheville, on dirait aujourd'hui. » Donc Jean-Baptiste ne voit absolument pas Jésus comme un rival, comme un concurrent, ni même comme un collègue prophète, si vous voulez, un confrère. Il l'a déjà décrit lui-même comme le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Autrement dit, celui qui par sa venue réconcilierait Dieu avec les hommes. Donc pour Jean-Baptiste, les choses sont claires. Mais pour les disciples de Jean, pour son entourage proche, la présence et l'influence grandissante de Jésus sont déstabilisantes. Et on s'identifie assez bien à eux finalement. Au verset 26, on voit leur réaction très humaine. Alors ça se passe dans le cadre d'une controverse sur la purification, etc. Ça, c'est pas très important. C'est dans le cadre de ce débat-là que la question est arrivée. Et au verset 26, on voit ce qu'ils disent. Ils vont voir leur maître et ils lui disent « Rabbi, maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de désapprobation explicite dans cette phrase, mais on peut quand même, surtout quand on voit la réponse de Jean ensuite, de Jean-Baptiste, on peut deviner la frustration et un peu de jalousie chez ses disciples de Jean-Baptiste. C'est un peu comme s'il disait, non mais dis donc maître, le nouveau là, tu sais, celui dont tu nous as parlé l'autre jour, il a un peu repris ton créneau, hein, il fait comme toi, il baptise les gens, il enseigne, et il commence à avoir de plus en plus de gens qui le suivent. Sous-entendu, ça ne te pose pas problème de voir ton influence menacée? Et il faut reconnaître que le monde dans lequel nous vivons, il fonctionne exactement comme ça. Qui a le plus d'influence? Qui se positionne sur tel ou tel créneau dans la société? Qui est le plus grand? Qui est le plus original? Qui est le plus influent? Et les disciples de Jean-Baptiste, ils ont trouvé en lui leur prophète, leur maître à penser, et ils ont du mal avec le fait que Jésus commence à, si on veut, lui faire de l'ombre. Parce qu'on parle de plus en plus de ce Jésus. Si Jean avait réagi typiquement, il aurait dit, vous avez raison les gars, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais quand même pas me laisser marcher dessus. Tous ensemble. Mais il va réagir complètement à l'opposé de ça. Et au verset 28, il rappelle à ses disciples qu'il n'y a aucune concurrence entre Jésus et lui. Et il leur dit, vous êtes vous-même témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Donc Jean-Baptiste rappelle à ses disciples qu'il n'est pas le Messie, il n'est pas le Sauveur. Rappelons que Christ, ce n'était pas le nom propre de Jésus à l'origine, ça veut dire Messie, Sauveur, Roi Sauveur. Il dit qu'il est plutôt son témoin. Et d'ailleurs, justement, en parlant de témoin, il va donner ensuite l'image d'un témoin de mariage au verset 29. Verset 29, il dit « Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. » C'est intéressant de voir qu'il y a 2000 ans, c'était déjà d'usage d'avoir un témoin de mariage aux côtés du marié. Je ne sais pas si l'un ou l'autre ici a déjà eu l'occasion d'être témoin dans un mariage, hein, toute une histoire. Alors, ça c'était... Moi je suis pas allé, j'ai pas fait dans la demi-mesure, hein, j'avais cinq témoins. Et bon, je me suis marié aux États-Unis, dans la région d'origine de ma femme, et ça se fait comme ça là-bas, voilà, ça c'est l'excuse. Mais alors là, c'était censé, on devait être très sérieux, et puis il y en a qui n'ont pas trop joué le jeu, qui rigolaient. Mais voilà mes témoins de mariage. Et ça, c'est mon témoin, Julien, qui a fait un petit discours, voilà, comme on fait souvent. Le témoin, en général, c'est un ami proche du marié. Et il est heureux pour le marié, on l'espère en tout cas. Et il n'y a aucun doute dans son esprit que cette jeune femme qui se marie, ce n'est pas la sienne, mais c'est celle du marié. Et précisément, le rôle du témoin, c'est d'être témoin de leur union et de se réjouir avec eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean nous donne ici une image à double dimension. Il y a d'abord un sens très simple et très direct. C'est une évidence que ce n'est pas le témoin de mariage qui va partir en voyage de noces avec la mariée. Ce n'est pas son jour à lui. Il est là pour être témoin. Chacun son rôle. Donc là, il y a une image toute simple. Et Jean-Baptiste illustre bien ce qu'il vient de dire au verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, autrement dit de Dieu. À chacun de jouer le rôle que Dieu lui a donné. Jean-Baptiste n'a aucune raison de revendiquer le rôle de Jésus parce que ce n'est pas ce rôle que Dieu lui a donné. Mais il y a une autre dimension à ce que dit Jean-Baptiste. Cette image du marié et de la mariée, elle est employée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et dans ces textes, l'image du marié est utilisée pour représenter Dieu. Tandis que la mariée représente le peuple de Dieu. Dans le cadre de l'Ancien Testament, donc le peuple d'Israël. Alors je vais citer deux textes parmi d'autres. D'abord, Ésaïe 62, verset 4. « On ne te dira plus délaissé, on ne dira plus ta terre dévastation, mais on t'appellera, mon plaisir est en elle. Et on appellera ta terre l'épousée, car le Seigneur prend plaisir en toi, et ta terre sera épousée. » Un autre texte, le prophète Osée, chapitre 2, versets 16 à 18, Dieu parle de son peuple, là encore, il dit, c'est frappant, regardez ce texte, « Eh bien moi, je vais la séduire. » Parlons du peuple. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. En ce jour-là, déclaration du Seigneur, tu m'appelleras mon mari. Jean-Baptiste connaissait sans aucun doute très bien l'Ancien Testament. Il n'ignorait pas ces images. Et alors que ses disciples lui disent que tous vont vers Jésus, une exagération certainement, mais de plus en plus de gens vont vers Jésus, Jean-Baptiste nous rappelle que Jésus, c'est lui le marié. C'est-à-dire, dans la logique de cette image biblique, c'est le Seigneur du peuple. Jean-Baptiste, lui, est un prophète issu du peuple. Mais Jésus, lui, est le Seigneur, le roi sauveur du peuple. Et Jean-Baptiste l'a compris. Il a compris qui est Jésus. Et les versets qui suivent, les versets 31 à 36, vont confirmer cela. À partir du verset 31, ce n'est probablement plus Jean-Baptiste qui parle. C'est l'auteur de l'évangile, Jean, qui semble commenter et approfondir ce que Jean-Baptiste vient de dire. Et au verset 31, il établit un contraste entre Jésus et Jean-Baptiste en disant purement et simplement que Jésus vient d'en haut, il vient d'auprès de Dieu. C'est ce qu'il a déjà dit d'ailleurs tout au début de l'évangile, en présentant Jésus comme le Logos, la parole qui est auprès de Dieu depuis toujours et qui est elle-même Dieu. Et Jean contraste ainsi Jésus, celui qui vient d'en haut, avec Jean-Baptiste, celui qui est de la terre. C'est une façon un peu symbolique, bien sûr, de parler. Mais par là, il veut dire que Jean-Baptiste est un homme comme vous et moi, qui a reçu une mission bien précise, celle de rendre témoignage de Jésus, de préparer le peuple d'Israël à son époque à entendre et recevoir son Messie, Jésus. Dans les versets suivants, Jean, l'évangéliste, ajoute que si Jean-Baptiste a été témoin de Jésus, Jésus, lui, il est témoin du ciel. Ce n'est pas un homme comme un autre qui parle de Dieu. C'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes et qui se révèle lui-même dans la personne de l'homme Jésus. C'est ce que Jean veut dire lorsqu'il précise aussi qu'en Jésus, Dieu a donné son esprit sans mesure. Dieu avait déjà inspiré des prophètes par son Saint-Esprit, d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même, était inspiré par l'Esprit. C'était Dieu qui parlait à travers lui. Mais en Jésus, Dieu donne l'Esprit sans mesure. Autrement dit, Jésus témoigne pleinement et parfaitement de Dieu. Il y a plénitude de révélation en lui. Si vous avez Jésus, vous avez Dieu. Et Jean ajoute de manière saisissante au verset 32, et personne ne reçoit son témoignage. En Jésus, Dieu s'est révélé aux hommes, et pourtant, globalement, l'homme n'a rien voulu savoir de ce témoignage et de cette révélation. Alors Jean, l'évangéliste, aime bien s'exprimer de façon très absolue. Il vient de dire « personne ne reçoit son témoignage », mais à partir du verset 33, il montre que c'est une généralisation et que certains tout de même reçoivent cette révélation. Et recevoir cette révélation, nous dit Jean, ça revient à certifier que Dieu est vrai. Autrement dit, si je crois en Jésus, j'ai compris comment Dieu s'est révélé. Alors je ne l'ai pas compris parce que je suis très intelligent et que j'ai passé des années à l'étudier. Je l'ai compris parce que Dieu m'a donné de le comprendre. J'ai compris comment Dieu s'est révélé et j'accepte de croire en Dieu tel qu'il s'est révélé. Dans notre société, il est très à la mode de dire que si Dieu existe, tous ne croient pas que Dieu existe, bien sûr, mais si Dieu existe, il doit forcément être un Dieu qui se révèle de toutes les manières possibles et imaginables. Donc certains le trouveront en lisant la Bible, d'autres en lisant le Coran, d'autres en allant s'asseoir dans la position du lotus dans l'Himalaya, en gardant des chèvres en Corrèze, je ne sais pas. Mais Jean nous dit ici que Dieu a donné témoignage de lui-même. Et ce témoignage, il est incarné dans une personne, son Fils, Jésus-Christ. Autrement dit, et c'est là que le christianisme biblique va totalement à l'encontre de notre société, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de son Fils. Et Jean ne mâche pas ses mots en nous disant cela. Verset 35, « Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. » Comment voulez-vous avoir accès au Père sans le Fils, alors que le Père a tout remis entre les mains du Fils? Verset 36, « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. » Vous voyez la liberté de l'invitation qui est adressée ici. Ce n'est pas les gens comme ci ou comme cela, c'est n'importe qui, celui qui simplement met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Des paroles dures, comme il y en a beaucoup dans la Bible. Ce ne sont pas forcément les paroles les plus faciles qui sont vraies. Et d'ailleurs, c'est rarement les paroles les plus faciles qui sont vraies. Pour Jean, l'enjeu est incontournable. Pour connaître le seul vrai Dieu, celui qui s'est révélé à l'humanité, celui qui est notre Créateur, c'est par Jésus qu'on passe. Parce que c'est en lui que Dieu s'est révélé. Et ce n'est pas à nous, ces créatures, ce n'est pas à nous, hommes et femmes, de dire à Dieu qu'il aurait dû se révéler autrement, ou qu'il aurait dû le faire de façon plus diversifiée, qu'il aurait pu nous donner plus d'options. Ce n'est pas à nous de dire ça à notre Créateur. Dieu a envoyé Jésus pour nous, à nous, de recevoir Jésus. Il n'y a pas d'autre condition pour connaître Dieu que de recevoir Jésus dans sa vie, de croire en lui et de dire « Oui Dieu, j'atteste que tu es celui que tu dis être et tu t'es fait connaître par ton Fils Jésus. » Mais à l'inverse, si nous rejetons le témoignage de Jésus, alors nous dit Jean, la colère de Dieu demeure sur nous. Sans bénéficier du plein pardon, de la réconciliation, de la grâce que Jésus nous offre, nous restons devant Dieu, des hommes et des femmes, pécheurs, c'est-à-dire tout simplement rebelles, activement pour certains, plus passivement pour d'autres, mais rebelles à sa personne et à sa volonté. Alors revenons à la question de départ. Pourquoi Jean a-t-il réussi sa vie? Il a réussi d'abord parce qu'il a compris qui est Jésus. Et par conséquent, il a compris que le sens de sa vie ne se trouvait pas dans la promotion de lui-même, mais dans l'exaltation de Jésus. C'est mon deuxième point qui sera plus bref. À son époque, Jean-Baptiste était en quelque sorte une célébrité. D'ailleurs, il est mentionné par plusieurs sources historiques, en dehors même de la Bible, comme un prophète particulièrement influent en Israël à son époque. Et pourtant, quand Jésus arrive, Jean-Baptiste commence à s'effacer. Alors, on vient de voir la raison essentielle de cela. Jean-Baptiste a compris qui est Jésus. Et il sait qu'il n'y a pas de commune mesure entre son ministère et celui de Jésus. Et par conséquent, l'influence grandissante de Jésus, elle ne provoque chez lui aucune amertume, aucune déception, aucune honte. Au contraire, Jean exprime sa joie. Verset 29, l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Jean a compris que Jésus est non pas son confrère, son concurrent ou son rival, mais son Seigneur, son Dieu et son Sauveur. Par conséquent, Jean-Baptiste a compris qu'il n'est pas un concurrent dépassé, mais il est le plus heureux des hommes. Il est celui qui voit Dieu agir de ses propres yeux et qui a le privilège aussi d'être utilisé par Dieu pour témoigner de Jésus. Et quand il dit au verset 30, il faut qu'il croisse, qu'il grandisse et que moi je diminue, c'est pas par une sorte de modestie forcée. Ce n'est pas non plus parce qu'il se dit, il est plus doué que moi, autant que je le reconnaisse, il aura plus de succès, autant ne pas insister. Non, Jean-Baptiste dit cela parce qu'il a compris que l'homme est le plus heureux lorsqu'il n'essaye plus d'être Dieu à la place de Dieu. Et je crois que le secret d'une vie réussie, d'un point de vue biblique, c'est exactement ça. C'est comprendre que le but de la vie, ce n'est pas de se mettre soi-même en avant, mais plutôt de mettre Dieu en avant. Si Dieu est bien celui qui nous a créés, si c'est lui qui nous a donné notre identité même, qui nous connaît parfaitement, alors c'est très logique, ça coule de source, de penser que c'est uniquement en relation avec lui que nous trouverons le sens et la réussite de notre vie. Et je voudrais insister sur le fait que comprendre ça, c'est absolument libérateur. C'est libérateur parce que ça veut dire que la valeur de notre vie, le poids de notre vie, n'est plus fondé sur la moyenne entre nos réussites et nos échecs, mais sur la simple présence de Dieu dans notre vie. À partir du moment où nous avons laissé Dieu s'emparer de notre vie, eh bien, notre vie devient un témoignage à sa personne et à sa puissance. Notre plus grand honneur, notre plus grande vocation, c'est d'être des hommes et des femmes qui témoignent de la personne, du caractère et de la puissance de Dieu. Alors, si quelqu'un devait nous demander, et toi alors, qu'est-ce que tu vas faire pour laisser une marque dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas faire pour quand même rentabiliser un peu cette vie, hein, ces quelques décennies que tu as, pour bien réussir? Eh bien, la meilleure et la plus belle des réponses que nous pourrions donner en tant que chrétiens, c'est celle-ci. Mais ma vie ne m'appartient plus. Je l'ai confiée à celui qui m'a créé et qui m'aime. Et je n'ai plus rien à faire pour justifier mon existence, parce que celui qui a choisi de me créer m'a aimé. Et lui, il a déclaré ma vie éternellement valable à ses yeux. Et il faut bien comprendre que dire cela, ce n'est pas se retirer du monde. Ce n'est pas, comme on pourrait le penser, ne plus se préoccuper de l'action, de l'engagement. Au contraire, c'est être libéré pour agir et s'engager, non pas pour y trouver le sens de sa vie ou de sa valeur, mais parce que Dieu lui-même a agi dans ce monde et il veut agir à travers nous. Dieu a estimé ce monde si important qu'il est intervenu en chair et en os dans ce monde. Dieu a estimé l'homme si important qu'il a assumé la condition humaine pour nous sauver. Et plus encore, il a inauguré par la résurrection de Jésus une nouvelle humanité qui s'inscrit dans l'éternité. Pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, nous devons reconnaître que trop souvent, nous continuons à réfléchir, moi le premier, selon les valeurs de ce monde. Alors, parfois c'est subtil, nous n'aspirons peut-être pas à être une star ou un grand modèle de succès professionnel, financier ou je ne sais quoi. Mais nos actes témoignent de ce que souvent, nous consacrons notre plus grande énergie à notre propre exaltation et à notre propre réussite individuelle. Et je me demande si Dieu nous invite ce soir, et je pense que oui, à vrai dire, s'il nous invite à méditer l'exemple de Jean-Baptiste. Réussir sa vie, c'est laisser toute la place à Jésus dans sa vie. Alors je voudrais nous lancer un défi pour cette semaine. Quelle démarche pourrais-je entreprendre cette semaine qui démontre que le sens de notre vie n'est plus fondé sur ma réussite personnelle, sur notre réussite personnelle, mais sur l'exaltation de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine ou comment est-ce que je peux changer ma vision des choses pour montrer que ma vie est réussie, non pas par ce que je fais, mais par la présence de Dieu dans ma vie. Et si ce soir, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est encore très théorique pour vous, vous n'avez pas le sentiment justement d'avoir la présence de Dieu dans votre vie, je vous encourage à venir m'en parler, ou à Paul, ou à Anne-Sophie. N'hésitez pas à venir nous en parler, à prendre rendez-vous avec nous pour que nous puissions approfondir cette question avec vous. Je vous invite à prendre une minute pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire cette semaine qui montre que c'est Jésus qui est le garant de la réussite de notre vie? Et ensuite, je prierai. Merci Père pour l'exemple de Jean-Baptiste qui, en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue », nous donne un modèle à suivre. Seigneur, tu ne nous appelles pas à faire comme si nous n'étions rien, à nous nier nous-mêmes. Au contraire, c'est toi qui nous dis combien nous sommes valables à tes yeux. C'est toi qui l'as prouvé. Mais Seigneur, tu nous appelles à trouver notre valeur non plus en nous-mêmes, mais en toi. En toi, notre Créateur. Alors aide-nous à changer de vision s'il est besoin, peut-être pour la première fois, peut-être d'une manière renouvelée. Et puis pour toutes ces fois où nous oublions ce que nous croyons par ailleurs. Donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui surprennent autour de nous, parce que les gens autour de nous constatent que nous n'investissons pas ce que nous avons de plus valable dans nos propres accomplissements, mais que nous te plaçons véritablement au centre de notre vie et que c'est en toi et en ta présence que nous trouvons notre plus grande joie. Au nom de Jésus, amen.